Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, 17 avril, le superbe journée à l'extérieur. Ici Alexandre Bélanger, votre animateur de Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Pour une dernière fois, pour 23-24, notre dernier épisode aujourd'hui, je suis joint comme d'habitude par mes trois complices habituels. Nathan Saint-Pierre, le roi des geeks, comment ça va?
Ah, moi, ça va bien, ça va bien.
Nathan a été couronné roi des geeks la semaine prochaine, passée à nos Olympes geeks, médaillé d'or, médaillé d'argent, Alex Racine, comment ça va?
Salut, ça va. Bien content de ma deuxième place.
Médaillé de bronze.
Je vais prendre la troisième place. Quand même content d'être ici.
Super, salut Hugo. Alors, cette semaine, pour conclure notre saison, on va en briser notre forme habituelle un petit peu et on va faire le tour de nos attentes, nos déceptions, nos coups de cœur, puis notre mécanique préférée pour faire honneur à Hugo et sa chronique du garage cette année. Donc, je pense qu'on va tout de suite commencer avec le petit garage. On fait un tour de table, on va commencer par Hugo, vu que tu es le king de nos mécaniques. Parle-nous cette année de la mécanique que tu as bien aimé découvrir.
On en a parlé de plusieurs en ondes, et dans les mécaniques que j'ai le plus appréciées, en fait, avant que je commence cette chronique-là, j'avais pas tant réalisé c'est quoi les mécaniques que j'aimais particulièrement.
C'est quelque chose qu'on comme sait instinctivement, ouais. Mais c'est un peu comme les accords en anglais. On sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait.
C'est ça. Puis à faire cette chronique de garage-là, j'ai réalisé que j'appréciais particulièrement les mécaniques narratives et les jeux euro. Qu'on a parlé un peu en ondes, si jamais vous n'avez pas entendu parler de ces mécaniques-là. Les jeux euro, c'est des jeux généralement assez simples, qui ont une bonne complexité, des bonnes stratégies, et dont le visuel est généralement assez attrayant.
Et où il n'y a pas de compétition directe entre les joueurs pour des ressources ou des attaques.
Voilà. Donc les joueurs ne s'attaquent pas directement, ils vont tenter de faire le plus de points possible, mais sans s'affronter directement.
Ils vont quand même faire sur une compétition pour des ressources, oui, pour des ça. Trucs comme ça. Là.
Mais vraiment, des jeux comme ça et aussi les jeux narratifs, donc des jeux dans lesquels il y a des moments où on lit l'histoire, il y a une histoire dans le jeu. C'est souvent des jeux de campagne où, par exemple, Above and Below, qui a des moments où tu explores et tu as des lectures à faire pour tenter d'avoir une plus grande immersion dans le jeu. J'ai réalisé que c'était vraiment ça, des jeux comme ça qui m'inspiraient beaucoup.
Bon. Nathan, tu veux-tu passer à toi, ta mécanique?
Ben oui, oui, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, moi, j'avais deux mécaniques qui étaient à ex aequo en première place. Il y a quelqu'un qui a pris la deuxième mécanique que je parle, donc je vais parler de l'autre qui était ex aequo. C'est les deck builders. Donc, pour ceux qui savent pas, les deck builders sont généralement avec un open market. C'est rare qu'il n'y ait pas d'open market en deck builder. Et tu, au fur et à mesure que la partie avance, eh bien, tu vas acheter des cartes pour changer ton deck et donc avoir plus de possibilités dans tes actions possibles. Et ça, ben, c'est généralement la mécanique que j'aime bien. Là, j'ai une des raisons pour laquelle Dune est mon un de mes jeux préférés. Les deux mécaniques que j'aime bien sont dedans.
Dans le fond, on parle ça d'un jeu qui les actions sont drivées par des cartes, puis tout le monde commence avec un deck identique. Et là, on va modifier les cartes à mesure.
Tu peux te débarrasser de tes cartes avec certaines autres cartes. Tu modifies ton deck au fur et à la partie et à la fin, il n'y a personne qui a le même deck.
Une mécanique qui est très populaire dans les jeux de Direwolf comme Clank, Imperium. Alex, tu veux-tu nous parler de ta mécanique préférée?
Ben moi, je voulais parler de deck builder, mais j'ai pas été assez vite. Après ça, je me suis dit, je vais peut-être parler d'open market, puis là, Nathan vient de glisser un mot par en arrière. Donc,
vous aviez des avis similaires.
Mettons, oui. Moi, je suis bien surpris qu'Hugo ne l'ait pas sorti. Pour moi, la symétrie de jeu, ça a été quelque chose que Hugo a mentionné, puis je me suis rendu compte que, oui, pour moi, c'est important. Ça rajoute la rejouabilité. Ça permet, au début au moins, à plusieurs personnes d'avoir une stratégie différente liée à des habilités différentes, des cartes différentes. Quand on parlait de deck builder, il y en a où tu commences pas avec le même paquet que ton voisin. Par exemple, si tu joues avec l'extension de Clank, chaque personnage a des cartes légèrement différentes.
C'est vrai.
Donc, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de dynamique dans un jeu qui rajoute de l'intérêt. Puis la sous-mécanique dont je voulais parler avec l'open market, c'était la collection de tags. En gros, avoir des tags qui vont s'additionner pour créer des bonus. Terraforming Mars est peut-être le meilleur exemple pour ça.
Et Ark Nova, deux de tes tout jeux préférés.
Un hasard? Je ne crois pas.
En effet.
Ah, et toi-même, j'imagine que tu as une mécanique dont tu vas nous parler.
Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours été un grand fan des worker placement. Dans le fond, ces jeux où on va prendre un agent, un pion, un travailleur, et on va les réserver un endroit et on va activer le pouvoir de l'endroit soit pour soi ou soit pour soi pour les autres. Mais la twist que j'aime, c'est les worker placement avec coût de ressources pour choisir. Mon extension préférée de Terraforming Mars, c'est Colonies. Et Colonies, il y a une petite mécanique de worker placement où on a différentes colonies qui donnent différents bonus, mais pour y aller, il faut payer. Et même chose, dans le fond, dans Dune Imperium, où on peut placer, mais ça nous coûte notre carte de jeu qui va nous donner l'icône qu'on a besoin, la pastille qu'on a besoin pour aller se coller sur l'endroit qu'on
veut. Donc, soit utiliser la carte pour aller à quelque part ou l'utiliser pour c'est les bonus ça. À la fin du round.
Puis ben, ce que j'aime dans ces mécaniques-là, c'est de la gestion de ressources, puis en même temps, c'est du coût d'opportunité. Hein? Je veux faire cette action-là, puis cette action-là. Là, il faut que je priorise celle que je veux faire parce que c'est possible que la prochaine ne soit pas disponible. Puis ben, je pense que c'est ça l'essence du board game, surtout le board game européen. De faire des choix comme ça. Fait que ça, c'est ma mécanique préférée. Est-ce qu'on a des honorable mentions de mécaniques qu'on n'a pas parlé ce matin?
En fait, le worker placement est un honorable mention, puis ça va quand même se transparaître dans mon coup de cœur de l'année pour le worker placement.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est les ressources qui s'accumulent. Mm-hmm. C'est toujours le fun de pouvoir varier ses stratégies comme ça, de « OK, ouais, il n'y a pas personne qui joue cette ressource-là, elle est moins payante, ça s'accumule, mais là, ah, oh, ouais, là, ça commence à valoir la peine. » Des trucs comme ça. C'est le fun, les board games.
Oui, oui. pour ma part, en fait, dans le Honorable Mention, il y avait le Worker Placement qui était ex aequo avec le Deck Builder. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le l'Engine Builder. Genre, bâtir ton engine, question d'avoir des points...
Ce qui se synergise bien avec le deck builder.
Exactement.
Parce que c'est souvent la forme la plus de base de ça. Mais on a des hand builder comme avec Fantasy Realm, puis on a des card builder comme
Mystic Veil.
Mystic Veil, exactement. Ouais. Donc, effectivement, des choses bien, bien fun comme ça.
Plein de mécaniques. Personne n'a dit co-op.
Mais c'est une des mécaniques que j'aime beaucoup, mais je dirais pas que c'est comme mon top mécanique. T'sais, personnellement, je préfère de loin plus dire que ce soit narratif, que ce soit coop ou compétitif. Je préfère plus narratif que spécifiquement coop ou compétitif.
C'est bon, ça. OK. Ben écoutez, ça avance. On a peut-être un petit peu d'avance, mais je pense que je vais aller à la pause. Puis après ça, au retour, on va parler de nos déceptions de l'année et de nos coups de cœur de l'année. Bonjour tout le monde, on est de retour en onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, on a parlé de nos mécaniques de board game préférées qu'on a tous découvert cette année avec la chronique Le Garage de Hugo. Maintenant, on va vous parler de nos... on va faire nos coups de cœur et nos coups de... Nos pas coups de cœur, hein? Nos petits
rants. Coups de cœur, coups de masse.
C'est ça, nos petites déceptions. Fait que comment on va fonctionner? C'est que on va faire le tour de la table. Vous allez nous parler de votre coup de cœur pour commencer. Puis après ça, on va finir sur un négatif. Nathan, tu veux-tu commencer avec ton coup de cœur de l'année?
Oui, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, mon coup de cœur cette année, c'est Sky Team. Un petit jeu co-op à deux. Qui me rappelle beaucoup Rush Hour, que je jouais énormément quand j'étais petit. Donc, tu as des cartes, tu as des niveaux avec des difficultés qui augmentent tranquillement pas vite et tu dois réussir à faire atterrir ton avion. J'ai regardé les derniers niveaux rapidement. Ils ont de l'air difficiles, je te dirais.
Ouais, je suis content d'avoir fait découvrir ce jeu-là. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ça avec toi.
Par curiosité, difficile parce que ça prend beaucoup de chance ou parce que ça prend beaucoup de stratégie?
Un peu des deux, je te dirais. Ouais. Étant donné qu'il y a un système de dés, donc chaque joueur lance un système de dés et ensuite, il va y avoir des différences de dés entre le pilote et le copilote qui vont permettre de faire bouger l'avion. Tu dois avoir des dés spécifiques pour faire certaines actions et donc...
Dans le fond, le jeu, c'est chaque joueur a 4 dés. On les lance, puis c'est secret. Pis c'est communication limitée. Fait qu'on peut pas parler de notre stratégie. Mais dès qu'on a lancé les dés, on n'a plus le droit de se parler. Puis là, ben, il faut jouer avec les flaps de l'avion, le train d'atterrissage, la
les
distance.
Freins.
Oui, les freins. Il faut dire aux avions, « Hey, tasse-toi, on atterrit. » Puis ben, éventuellement, ils ajoutent des mécaniques comme l'essence. Il faut avoir une certaine orientation à un certain moment. Sinon, on manque la piste. Fait que c'est,
pour faire un peu comme dans la vraie vie, des fois, il y a une montagne ou quelque chose dans la descente vers la piste. Donc, il faut que tu aies le bon angle, sinon bien...
Tu pognes
la montagne, donc...
Ça vient tough vite.
Mais c'est super agréable. Il est important d'avoir une bonne communication et faire comme, bon, OK, je vais gérer l'essence ce tour-ci. À moins que tu aies de quoi de ben, ben petit, là, faut pas oublier, faut qu'on soit en bas de 6 de vitesse pour pouvoir freiner. Et ça devient compliqué rapidement, mais c'est très, très intéressant. C'est pas trop long à jouer.
Sérieux, moi, il est dans ma ludo, ce jeu-là. Je suis super content de l'avoir acheté. Puis c'est dans mon top 20 facilement de mes jeux.
Puis c'est un excellent jeu qui se joue rapidement. Je l'ai vu sortir puis ranger en dedans du temps que je faisais 2 rounds à Ark Nova.
Effectivement. C'est pas très long. On peut jouer plusieurs parties aussi. C'est un super bon filler. Puis c'est un super bon... si vous prenez quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, c'est un super bon appetizer. Là. Fait que la seule déception que j'ai, c'est 2 contre 1. C'est 1 contre 1. C'est coop ensemble. Là.
Ouais.
2 personnes. On ne peut pas ajouter plus de personnes.
Ça aurait été compliqué pour piloter l'avion à plus que 2, je te dirais.
Ben, c'est ça. Pilote, copilote, puis... Alex Racine, c'est ton tour de nous parler de ton coup de cœur cette année.
Ben, cette année, mon palmarès de jeux préférés a été un peu bouleversé. Plusieurs affaires qui ont grimpé très vite. Donc, mes coups de cœur cette année, ça va être Earth.
Tes coups de cœur?
Oui.
Ooh.
Oui. J'ai Earth, on a parlé beaucoup, on a eu la chance d'avoir une interview avec
Maxime,
le créateur. Donc, vraiment un excellent jeu, vraiment beau, vraiment le fun. Peut-être pas à jouer au début d'une journée, mais...
On l'appelle souvent le brain burner, nous autres, au club, parce qu'il est tough à jouer. Les grosses caractéristiques de Earth, c'est qu'on joue tous en même temps. Donc, le joueur principal prend son action... Tout le monde a droit à une action secondaire. On se bâtit une mosaïque. La mosaïque peut avoir des mécaniques de
moteur.
Pas tant de moteur que de... Cherche mon mot, là.
Réduction, income...
Oui, bien... Ça s'aide entre eux autres, là.
Synergie.
Synergie, merci. Wow, je me sens pas bright, là. Il y a plusieurs ressources à gérer. C'est une salade de points à la fin. C'est de l'euro longtemps.
Ah oui. Ah oui, c'est de l'euro à son meilleur.
Puis t'as un autre coup de cœur.
Ben, moi, cette année, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de games de Ark Nova avec l'extension qui est sortie cette année. Puis, gosh, que l'extension rajoute beaucoup à ce jeu-là. C'est pas pour rien que cette extension-là a une meilleure note que le jeu puis une cote de difficulté plus basse. Ça rajoute pas de complexité puis ça rajoute plus d'éléments. C'est juste plus de fun.
Ça a rajouté beaucoup d'asymétrie, un des types d'enclos de plus, beaucoup de cartes. Quand c'est un jeu qui a déjà beaucoup, beaucoup de cartes puis qu'on en rajoute plus, je pense que ça fait...
Ça assure que chaque partie est vraiment unique,
oui.
C'est ça?
Oui. Oui, récemment, j'ai joué 7 parties, puis je te dirais qu'il n'y en a pas 2 qui se ressemblent.
Il n'y a pas de moteur possible, de combo facile à aller chercher. Comme je voudrais pas dire que les combos dans Terraforming Mars sont faciles à aller chercher, mais il y a plusieurs occasions d'aller chercher certains types de combos. On peut décider, OK, je vais travailler bactéries, mettons, dans Terraforming Mars. C'est presque impossible de faire ça à Ark Nova, tellement il y a de choix de cartes, puis tellement tu es prêt à discarter souvent aussi.
Oui, la malignité. Ben, c'est vraiment un excellent jeu pour moi. Un gros coup de cœur redondant, mettons.
C'est un des jeux qui a grimpé le plus vite le palmarès de BGG. C'est pas pour rien. Moi, sérieusement, Je pense que s'ils sortent une autre extension, ce jeu-là va avoir une troisième vie, puis il va probablement s'incruster dans le top 6. Là, il est cinquième, c'est ça?
Quelque chose comme ça, oui.
Je pense qu'il est 5, 6 ou 5.
Puis de la manière qu'ils ont changé les nouvelles cartes pour que les logos continents, ce ne soit pas 4 continents, mais juste un rond, j'ai l'impression qu'ils veulent rajouter un cinquième, probablement.
Ça ne me surprendrait pas. Hugo, c'est ton tour. Ton coup de cœur pour l'année.
Ben, mon coup de cœur, si on s'inspire un peu de ce que j'ai dit, des jeux un peu rôles, worker placement, etc., que j'ai découvert cette année, ça irait à Lost Ruins of Arnak, ou la version française, Les Ruines perdues de Narak, qui a vraiment, qui est la sommation de tout ce que j'apprécie dans les jeux de société. Là,
gestion de ressources, worker placement.
Exactement. Deck building. Des worker placement avec coût d'opportunité. Il y a vraiment de tout. Récemment, ils ont sorti une expansion co-op, mode campagne, avec du narratif.
Il l'a pris, il est parti avec chez eux, il ne l'a pas montré.
Avec.
Pas fin.
J'ai même pas encore eu l'occasion de le commencer, malheureusement. Il va falloir que je m'y mette. Mais c'est vraiment, à mon avis...
Lost World, ça a l'air d'un jeu qui a l'air simple quand on t'explique au début c'est quoi tes actions que tu peux faire. Mais il y a tellement de sous-patentes qui peuvent
arriver. C'est une fausse simplicité, je dirais. Là.
T'as juste 5 rounds, tu commences avec 6 cartes dans tes mains, t'en pioches 5 par tour, tu joues 2 workers par tour, puis tu dirais « Ah, mais ça va vite, 5 tours, 2 workers. » Mais rendu au 4e puis 5e tour, finalement, tu fais 14 000 actions avec les cartes que tu as obtenues.
Il y a un gros élément de construction de moteur aussi dans ce jeu-là. Il est super. Moi, il est aussi dans ma Ludo. Puis ça, c'est un autre des cas où j'ai acheté le jeu perso, je l'ai amené au club. Puis
le club l'a acheté la semaine d'après, je crois. Là.
C'est un jeu qui sortit en même temps que Zone Imperium. Ça y a peut-être volé un petit peu de tonnerre, je te dirais, parce que Dune Imperium est parti vraiment fort. Puis il y a beaucoup de mécaniques comparables.
Oui.
Il y a même beaucoup de vidéos que vous allez trouver en ligne où ils vont dire, ben là, t'achètes-tu Dune Imperium ou Arnak, si tu peux juste en acheter un des deux. Bon, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est deux jeux totalement différents. Mais,
je peux concevoir d'où les comparaisons
surface,
se font.
D'une vision extérieure, ayant joué juste une game à Dune, puis n'ayant pas pu jouer à Arnak encore, je dirais que deux workers, des cartes, un moteur, ça a l'air de se ressembler un peu.
Effectivement, la base...
De l'extérieur, pour avoir joué plusieurs games de Dune et plusieurs games de Arnak, non, il y a une grosse différence et c'est pas le même jeu. Il est d'ailleurs dans mon top 5 cette année de mes découvertes aussi, donc...
un super beau jeu, je suis d'accord, à 100%.
Toi, Al...
Et moi, ça a été difficile comme choix, là. Il y en avait, là, mais je suis content que vous ayez parlé de Arnak parce que c'est un jeu que j'ai découvert cette... Non, j'ai découvert l'année passée, mais fin de l'année passée. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Je pense que j'ai pris Heat, moi. Comme,
Planète en nombre, selon
oui,
ce
j'ai
que
pris
je vois.
Oui, Heat est mon...
Il faut le mentionner, ça a quand même été mon top 3.
Heat est troisième, puis Planète en nombre est deuxième pour jouer avec toi à plusieurs reprises.
Ouais. Bon, alors, je vais commencer par Heat un petit peu, puis je vais vous parler de Planète en nombre. Heat, j'en parle parce qu'on l'a au club, c'est un super jeu de course. Qui semble vraiment babette, puis tu te dis, ben, ça va être cake, ça va être facile, on va s'écœurer, non, pas pantoute.
On se cache pas, il est assez simple, c'est pas un jeu très très complexe.
Vraiment.
Mais il y a
pas.
Des mécaniques supplémentaires qu'on peut ajouter quand même, là. Il y a 2-3 niveaux de plus de complexité.
En effet, on peut rajouter de la complexité dans le jeu, mais je pense que c'est tellement
mais
fun.
Oui, mais c'est drôle même si c'est simple.
Ouais.
C'est ça.
Puis, moi, je pense
qu'il y a de la tension dans le jeu c'est tout ça. Le temps. C'est comme, ah, c'est qui va terminer premier? Est-ce que le dernier va te faire un méga coup à la fin?
Il y a toujours une mécanique pour permettre au dernier de se rattraper. Il y a pas de... C'est difficile de se sentir laissé en arrière dans ce jeu-là. Moi, j'ai le plus de plaisir quand c'est symétrique, en plus. Fait que là, c'est vraiment un petit peu de chance de comment t'as brassé tes cartes, comment t'es joué. Mais tu sais, puis il y a de la gestion de main, il y a de la construction de... Possiblement de la construction de main. C'est merveilleux comme jeu. Pour cette grosseur de boîte-là, c'est pas trop dispendieux. Heavy Rain, l'extension est sortie, j'ai vraiment hâte d'aller la chercher. Ça va venir dans quelques, dans quelques semaines. Puis je pense que tout le monde assis autour de la table aime ce jeu. Mais mon vrai coup de cœur cette année, c'est Planet Unknown. C'est pas un jeu que le club a acheté, c'est un jeu que j'ai mis dans ma Ludo personnelle. C'est un jeu de placement de tuiles qui semble tout simple, mais qui est tellement le fun. Il y a, un plateau dans lequel on place les tuiles. Le joueur qui joue choisit sa tuile. Il va mettre le plateau devant lui. Et tous les autres joueurs ont un espace du plateau devant eux autres et doivent prendre une des deux tuiles qui sont disponibles dans le plateau pour la placer. Fait que plus on est de joueurs, moins on a de choix de tuiles à placer dans le jeu. C'est vraiment cool. Il y a plein de petits objectifs secondaires. Il y a une stratégie à avoir parce qu'on ne peut pas tout faire dans ce jeu-là.
Il y a une possibilité d'asymétrie aussi, dépendamment si tu joues avec les boards de base ou les autres.
Je ne suis pas le plus grand fan d'asymétrie. Parce que des fois, l'asymétrie, ça fait qu'il y en a un qui est un petit peu plus avantagé que l'autre dans une situation. Quand tu es symétrique, ben, tout le monde est sur le même pied. Puis là, ben là c'est... T'sais, les échecs, là, c'est symétrique. Là.
Oui. Mmh.
Oui.
Puis ça reste, à mon avis, probablement le board game le ultime, là, même si, bon, moi, personnellement, j'aime pas super ça parce que j'ai pas la concentration pour...
Apprendre les 15 millions de...
Je connais toutes les attaques, ces affaires-là. C'est juste, j'ai pas le goût de faire toutes les stratégies dans ma tête. Mmh. J'ai le goût de jouer, j'ai le goût de prendre le fou, puis de bouger là, puis c'est comme, là, hop, là, c'était une erreur, hein? Oh, c'était une erreur. Fait que c'est pas... J'ai pas le... Non, c'est pas pour... Ben, c'est pas un jeu où est-ce que je serais bon. Tu sais, je vais battre un kid de 10 ans en 10 coups, là. J'ai pas de problème, là. Mais dès que je me prends compte de quelqu'un qui est le moindrement bon aux échecs, nous, ça marchera pas. Fait que... On a fait quasiment 15 minutes avec nos coups de cœur. Je pense qu'on va commencer avec notre premier ou nos deux premiers coups de masse.
Oui.
Puis ben, ça vous dérange pas, je vais commencer avec le coup de masse. Quand vous faites un Kickstarter, là, pouvez-vous être réaliste dans vos prévisions de livraison? S'il vous plaît.
Ouais, ben, pogne un Kickstarter pendant la pandémie et les derniers trucs sont pas arrivés encore. Ils font des updates. Ouais, ça s'en vient, c'est juste que c'est plus long. C'est comme...
mais,
j'en ai qu'une partie.
La pandémie, c'est correct. Mais quand tu fais un Kickstarter, que tu fais 6 millions, tu veux-tu au moins communiquer une fois par mois avec ton monde pour faire le tour de ce que tu as fait? Puis, tu sais, au moins quand il y a des imprévus, tu dis, ben écoutez, on n'avait pas bien prévu ça. Là, je vais dunker sur mon jeu préféré. C'est Gloomhaven. Hein? C'est mm-hmm. Fallofer. Une grosse campagne avec 4 produits, 6 millions de ventes. Si vous voulez encore acheter Gloomhaven 2.0, les pledges ne sont pas fermés. Si vous voulez les miniatures, les pledges ne sont pas fermés. Bon, bonne nouvelle, ils en ont tellement vendu qu'ils ont coupé le prix. Je pense que les miniatures sont rendues 65% du prix original. Fait que c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Ceci étant dit, le jeu de base, qui était comme le centre de la campagne, bon, il dit, OK, une partie de l'or est faite, mais une partie de l'or, c'était 10%. Fait que, puis là, on s'en revient d'abord, puis le graphic designer est parti, c'est comme, bon, non, vous n'aviez pas prévu votre coup, vous n'étiez pas assez avancé, vous n'étiez pas clair dans vos livraisons. Fait que là, mon jeu, ma livraison est probablement retardée. Ils disent 6 mois. Hein, on va toucher du bois. Mais c'est pas juste mon Gloomhaven 2 qui est retardé, c'est aussi mon Acquisition Incorporated 2 qui est retardé. C'est même mon Terraforming Mars qui est retardé, c'est comme...
Surtout pour des compagnies comme Gloomhaven ou Terraforming Mars qui ont fait le gros de leur début sur Kickstarter. T'es comme, vous le savez, guys, pis, ça ira pas bien.
Puis c'est pas votre premier bingo, là. T'sais, vous les connaissez, les délais de production, vous les connaissez, vos affaires. Laissez-vous, tu sais. Puis il n'y a pas personne qui a jamais chialé d'avoir eu une affaire en avance. Hein? Personne dans l'univers est arrivé et a dit « Chris, c'est trop de bonheur, je le voulais pas tout de suite. » Sauf peut-être si tu voulais déménager et tu n'avais pas la place. Là.
Ouais.
Mais, puis excusez mon langage, mais je suis vraiment fru parce que ce matin, j'ai fait le tour de mes 3 Kickstarter. Je les attendais pour juin, ça serait pas avant décembre.
Ça peut faire un beau cadeau de Noël de toi à toi, ouais, inattendu. Là.
Ouais.
Ouais, des cadeaux inattendus, c'est une bonne définition de Kickstarter, pour vrai. Je me souviens de plusieurs fois où j'ai des colocs qui ont ouvert une boîte, qui ont reçu par la poste, qui étaient comme « Mais c'est quoi ça, déjà?
» Bon, mais je pense que ça fait le tour de ma montée de lait, puis vous pourrez faire soit vos montées de lait ou vos critiques plus constructives, vos retours après les nouvelles du sport. de retour en onde à Ludo Radio avant de quitter pour la pause. J'ai fait un rant sur les Kickstarter en retard. Nathan?
Oui, ben oui.
Ta déception de l'année, c'est quoi?
Ben en fait, moi, ma déception de l'année cette année, c'est le mode à 6 de Dune Imperium Uprising.
C'était mon deuxième.
Le mode à 6 n'est pas mauvais. C'est juste que j'ai été déçu. J'avais tellement d'attentes, j'avais tellement de... Que là, c'est comme le fait qu'il soit pas tout à fait balancé, puis qu'il y a comme... Il est pas ce à quoi je m'attendais, fait que ça a quand même valu une déception.
On va donner du contexte. Dune Imperium, normalement, c'est un jeu à 4.
Oui.
Tout le monde compte tout le monde à 4.
C'est ça.
Et tout le monde a accès à tout ce qui est sur la carte. Tout le monde est équivalent. C'est les 4 joueurs sont...
Avec un petit peu d'asymétrie pour le leader de chaque faction.
Ça, exactement.
Mais quand on passe au mode à 6, on garde les 4 joueurs. Mais là, ils font des équipes avec...
un leader. Donc, pas la triade ou l'empereur...
Shaddam.
Donc... Mais le problème, c'est que les personnes qui sont avec Shaddam n'ont pas accès aux verres.
Et les verres, dans Dune Imperium Uprising, c'est une mécanique
qui double les récompenses de victoire.
C'est ça.
Et donc, pas avoir accès à ces verres-là, c'est...
Qu'est-ce que t'as en échange?
Rien.
Ben, pas grand-chose.
T'obtiens un peu... L'empereur a accès à un peu plus d'or, puis peut réserver des cartes dans
le champ. Et une meilleure capacité de production d'unité.
Oui.
Étant l'empereur. Mais à part... Mais c'est pas assez. Là. C'est ça, les Fremen jouent... Si les joueurs qui sont avec Paul Atreides jouent comme il faut, c'est pas un assez gros avantage. C'est comme...
Effectivement. Puis les joueurs qui jouent avec Paul peuvent compenser en choisissant des leaders différents aussi pour générer plus de cash, générer plus de troupes.
Ou générer plus d'eau aussi, parce qu'il y a des leaders qui permettent de régénérer beaucoup d'eau, puis l'eau est une ressource qui est tellement...
Ben, l'eau débarre le spice, puis le spice, c'est
le spice débarre les armées.
C'est ça, puis la ressource principale dans ce jeu-là. J'ai tendance à être d'accord avec toi que le mode assist, la petite imbalance... Je te dirais que je ne l'ai pas pris, moi, celui-là, parce que... On a juste joué une partie. Je suis prêt à te donner une deuxième chance.
Moi, j'en ai fait deux, puis je te dirais que les deux parties étaient pas mal identiques. Puis... Le jeu est pas mauvais, je vais être prêt à y rejouer.
Parce que ça brise pas le jeu de base, ça brise le bonus. Là.
C'est juste que ça reste une déception par rapport à ce à quoi je m'attendais et au potentiel que le mode assist pouvait avoir.
Personnellement, je dirais pas que ce serait une déception. C'est un peu moins que ce à quoi je m'attendais, mais je dirais pas jusqu'à classifier que je suis déçu par l'œuf. Mais je veux dire, je peux comprendre pourquoi tu le lis.
Alex Racine, t'as hâte à quoi, toi?
Ma
déception, là.
T'es déçu par quoi cette année?
Ben moi, je suis déçu par les gens.
Oh,
ouais. Le monde. Cette année, on a eu la chance d'avoir un film de D&D qui était pas mauvais. C'était bon. Ça faisait une bonne référence à D&D, des bonnes mécaniques, un bon monde.
Beaucoup d'inside, clairement écrit par des gens qui ont joué à D&D et qui aiment D&D, ce qui est vraiment pas donné à Hollywood.
Non. Puis non seulement c'était un bon film de D&D, mais en plus, il a été populaire avec pas juste le monde qui aime D&D, il a été populaire at large.
Ben, ça reste un bon film d'aventure et d'action quand même, là, genre... Si on s'en va à la limite de ce qu'est D&D, là, de l'action et de l'aventure.
Ouais. Puis après ça, quelques mois plus tard, on a eu un jeu de D&D qui était bon, qui fonctionnait, qui a été genre jeu de l'année à bien des places.
Baldur's Gate 3.
C'était bon, c'était fantastique. Puis, mais ils sont où le monde qui ont vu tout ça puis qui se sont dit, il me semble que je veux jouer à D&D, on est là, on vous attend, puis vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je vais te faire un contrepoint, puis c'était dans ma liste des possibilités. C'est... Wizards of the Coast et leur façon de gérer leurs fans et leurs partenaires qui a tellement été horrible depuis 2 ans que je te dirais que là, je pense qu'ils sont en train de ramasser ce qu'ils ont semé.
C'est sûr, mais pour le monde qui se sont dit ces films-là, ce jeu-là, c'était le fun, hein? Vous n'êtes pas obligé de donner votre argent à Wizards of the Coast, c'est pas ça que vous voulez faire. On en a plein d'autres systèmes. Venez nous voir, soyez pas gênés. On en a plein, ça va être le fun, ça va être des aventures épiques.
Hugo, as-tu une déception cette année?
Oui, c'est un peu plus tangible que vous autres. Moi, mes déceptions, peut-être que ça va vexer un peu Alex, là, mais ça a été Eon's End. c'est un jeu de société qui, genre, quand je l'ai lu pour la première fois, j'avais vraiment beaucoup d'attentes envers. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'open market co-op.
Deck builder.
Deck builder, où est-ce qu'il y a des monstres qui apparaissent, des boss, et le but c'est de battre les boss en upgradant ton deck. Tu peux manipuler ton deck pour repiocher plus souvent les bonnes cartes que tu as besoin. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. À première vue, ça semblait.
C'est à l'exécution que ça se gâche, hein?
Personnellement, pour l'avoir essayé à quelques reprises avec différentes personnes, ça redonne pas ce que ça propose.
Ça gèle pas.
Ouais.
On dirait que la pâte apprend pas et qu'elle reste molle. J'ai pas mal la même opinion que toi à ce jeu-là. Je trouve que le setup est long pour le payoff.
Ben, le setup, c'est sûr que ça s'arrange avec le temps, là, mais oui, je peux comprendre.
Mais c'est oui, Alex aime beaucoup le jeu. Je pense que c'est le jeu préféré d'un de ses colocs.
Oui, puis c'est probablement mon top 3 encore.
Ouais. C'est ça. Moi, je trouve pas que c'est un mauvais jeu. Je pense que...
Non. Je pense que dépendamment, si c'est un jeu que t'aimes, tant mieux. Il y a un potentiel. Puis honnêtement, essayez-le. C'est ça que je vous recommande. Mais personnellement, quand je l'ai essayé, ça m'a pas donné l'expérience que j'espérais.
Donc, mais achetez-le pas. Venez le louer. Ouais. Dans la ludothèque du CJRSS pour 10$ pour votre membership pour l'année, ça vaut la peine. Puis là, si vous l'aimez, vous irez l'acheter en spécial quand on va faire un achat de club.
Puis si vous l'aimez aussi, sachez qu'il y a pas une, pas deux, pas quatre, six autres boîtes de jeux-là avec des personnages différents, des mécaniques supplémentaires, des boss de plus, etc., dont deux Legacy. Mais il y a aussi quatre boîtes, trois autres boîtes stand-alone puis une extension.
Un investissement assez important.
Non, mais t'es pas obligé d'acheter la boîte première parce que les quatre autres boîtes sont stand-alone.
En plus,
tu peux acheter la boîte 2, 3, 4.
Ça, c'est un plus. Moi, j'ai joué peut-être une dizaine de fois au total, souvent avec Étienne, qui est le coloc à Alex. Là,
qui possède les six boîtes.
qui est full equip, là. Je dirais qu'il y a des parties que j'ai eu du plaisir puis il y a des parties que j'en ai pas eu. Pas tout.
Ça dépend beaucoup de ce que tu vas drafter dans ton open market.
Les mécaniques des boss, puis ça des joueurs. Des fois, ils vont s'opposer complètement.
Parce que ça peut arriver que tu fasses le boss, tu perds, tu dis « OK, on recommence à présent, on sait ce qu'il fait, on peut s'y préparer et que tu n'as aucune manière de gagner malgré tout. »
OK, ça,
on a peut-être mention à la fois où on a battu le même boss avec lui deux fois puis qu'on a perdu les deux fois.
Ouais.
On l'a fini par l'avoir. Ouais. Ça a été long.
Il manque de balancement dans le jeu, de ce que j'entends. Là, c'est qu'on dirait que le jeu est comme... Soit il n'a pas fini de cuire, un peu comme la...
C'est-à-dire qu'il n'a pas pris, là. C'est dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais il y a quelque chose...
C'est un petit anicroche qui ne fonctionne pas, puis on ne sait pas c'est quoi.
Mais il y a des games que ça roule, c'est super fluide, c'est le fun.
Oui, c'est les games que j'ai eu le plus de plaisir. Mais les games,
même si on perd, des fois, ça va super.
Oui, mais c'est ça. Je pense qu'il est peut-être un petit peu trop flexible pour son propre bien. Puis il se déboîte des morceaux.
Ouais, le modulaire, des fois, il en perd un peu des bouts. Tu vas vous le donner.
C'est ça, je dirais. Fait que, on achève bientôt. Dernier segment de l'année. Déjà, Sniff. On va
commencer... un peu plus d'espoir, ce dernier segment-là.
Oui, dans le fond, on va finir sur une note positive. Donc, on va parler. On va faire à peu près 5 minutes chacun sur qu'est-ce que notre anticipation, ce qui nous excite pour le prochain 6 à 9 mois.
Avant la prochaine saison, le retour de 24.
Nathan, tu veux-tu commencer?
Oui, en fait, moi j'en ai 3, donc je vais en présenter 2 rapidement, juste de nom, et le troisième, je vais l'expliquer un peu plus. J'ai hâte d'avoir Star Wars Outlaws qui va sortir sur prochainement, au mois d'août, d'Ubisoft, donc un monde en open world, dans l'univers de Star Wars où tu joues pas un Jedi.
Par ceux qui ont fait les jeux comme... Tom Clancy's Wildlands, puis Ghost Recon Wildlands.
Donc, des jeux open world qui sont bien faits dans l'univers de Star Wars. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Pas fait parier.
Il y en a un autre qui s'appelle Shadow Scar, un jeu de rôle sur table, dans lequel tu joues des ninjas qui font du voyage interplanaire et qui vont chasser des yokai. Donc... juste le système, il a été annoncé,
mais on n'a pas la date. La prévue, c'est intéressante, ça le cachera pas.
C'est ça. Et finalement, il y a Break, qui est un jeu de rôle sur table d'inspiration japonaise, donc grandement inspiré par les mangas les animés et les jeux vidéo, dans lequel vous jouez un groupe d'aventuriers sur un système de D20, avec beaucoup de possibilités de faire des classes différentes qui font penser beaucoup aux animés de japonais, donc des femmes chats, des robots, des elfes et mentionnés liaisons, avec beaucoup de flexibilité au niveau du système, donc tu n'es pas limité au nombre de races et nombre de classes, donc les combos sont relativement intéressants. Sort prochainement, ceux qui ont participé au Kickstarter devraient recevoir leur PDF dans les semaines qui suivent, donc un projet qui est terminé, puis qui est à point, puis qui arrive. Donc, pour ceux qui chialaient pour Kickstarter, des fois, Kickstarter va bien.
T'as-tu ton tracking code?
Non, mais moi, je n'avais pas parti pour Kickstarter, c'est que je l'ai vu aujourd'hui. Okay. Donc, à quel point comme ça s'en venait. Mais, donc, système qui a de l'imagerie est très, très belle. Fait un peu référence à des images que je verrais dans Wakfu, un MMORPG européen. C'est une boîte britannique qui a lancé le jeu. Donc, l'image est très, très belle, très colorée. Le système a l'air relativement simple de ce que j'ai vu. J'ai lu des PDF rapidement là, pour ce qu'il montrait. Système relativement simple. Donc...
Avec une twist intéressante pour les gens qui n'ont pas de chance sur leur D20.
Exactement, parce que là, c'est en dessous d'un score qu'il faut que tu fasses, pas au-dessus. Donc, clairement, le moment où je vais rouler que des 20 pendant la soirée, c'est dans ce jeu-là si je la jette.
Ça, la différence, c'est entre rouler bas et rouler mal.
C'est là qu'on va savoir où se tracer.
Ouais,
c'est fait par qui, Nathan?
J'ai complètement oublié. Pour le Shadow Scar, je sais que c'est fait par le créateur de Cyberpunk et le jeu de The Witcher en jeu de rôle sur table. Donc, mais pour l'autre, j'ai complètement zappé. Là, je peux faire une recherche pendant la pause et vous revenir après la pause là-dessus.
Tombe, on va aller payer nos billes pour la dernière fois cette année. Et on va revenir dans quelques minutes, secondes. De retour en onde à Ludo Radio, votre dernière section de rendez-vous de discussion aux jeux de société, jeux de rôle, culture geek, sniff sniff. La fin de la saison approche. C'est à la fois un petit pincement au cœur et un petit peu un.
On va pouvoir aller se ressourcer, oui, question de revenir avec plus de RPG et plus de jeux la saison prochaine.
Parce que c'est ça, une heure par semaine pendant 6 mois, ça a l'air de rien, mais c'est on parle niveau production télévision. Là.
Ouais, mais ça, j'ai beaucoup de RPG en attente de lecture pour justement la saison prochaine.
Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de jeux et de mécaniques à essayer parce que là, je commence à être à sec dans ce que je connais de notre ludothèque.
Mm-hmm. Puis ben moi, j'ai une shelf of opportunity à plus explorer là, dans ma ludo personnelle, là, des trucs que j'ai pas pu jouer vraiment encore là, ou que j'ai à peine commencé comme Age of Innovation. Mm-hmm. Bon, Alex, c'est ton tour.
Ben avant, je pense que Nathan a trouvé.
Ouais, j'ai fini par trouver. C'est fait par Grey Wizard sur Kickstarter, donc je crois que c'est leur premier
projet.
Premier projet, donc ça fait 11 ans que c'est en développement. Donc,
OK, c'est pas un petit projet.
C'est pas un petit projet. Mais bref, d'après moi, c'est leur premier projet là, qui arrive. C'est
pas une, en tout cas.
Je connais pas. En tout cas.
Bon. Ben moi, ce à quoi j'ai hâte cette année, je suis pas méga au courant de ce qui se passe au niveau des nouveaux board games. Mais je suis au courant de ce qui se passe pour les extensions. Dans mon top 5 cette année, j'ai deux extensions qui s'en viennent pour sûr, puis une que j'espère beaucoup.
Fait que je vais faire un wild guess. Abondance pour Earth.
Oui, pas de date pour ça.
Non, on n'a pas de date, mais
ça devrait s'en venir.
Il est proche à maudit parce qu'on a l'art visuel, on a des présentations, tout ça.
Ça, c'était mon pas certain, mais j'ai bien hâte qu'il s'en vienne.
Puis le Kickstarter vient de fermer, je pense. Mais je te laisse parler de l'autre.
L'autre.
Une passion pour ce jeu-là aussi.
Oui, oui. Ben, c'est le jeu qui a été kick-out de mon top 3 cette année, mais qui va peut-être faire une remontée. C'est Terraforming Mars avec Prélude 2, qui vient avec plus de dynamique de Prélude, des nouvelles cartes de jeu et surtout des achievements modulables sur le plateau. Donc, ça, je pense pas que le club va les avoir tout de suite, cependant.
Pour mettre un petit peu de contexte, dans le fond, quand on joue à Terraforming Mars, on a le board de base, on peut avoir deux boards de plus. Et sur chacun des boards, il y a deux sections, les achievements et les
milestones.
Les milestones.
Il y a 5 choix par carte.
C'est ça. Et c'est seté sur le board. Mais là, ça va devenir modulaire.
Donc, si vous aimez beaucoup, mettons, l'achievement d'avoir le plus de production d'argent à la fin de la game, il est sur la map de base. Mais là, vous jouez sur une autre map,
Ben, vous ça l'avez se peut qu'il, pas. C'est une autre stratégie.
Grâce au, à l'affaire modulable, ça se peut que vous vous ramassez sur la map de Ella, puis qu'il y a l'achievement de l'argent production. Parce qu'on l'a pigé au hasard, puis qu'on en a modifié, mettons, 2 des 5, mm-hmm. puis que, padala, c'est ça qui est arrivé. Donc, ben hâte à ça, ben hâte aux nouvelles maps. Puis pour ceux qui aiment jouer tout seul à ce jeu-là...
Nouvelle automata aussi.
Oui. Donc, une meilleure jouabilité tout seul, des nouveaux challenges.
Et si, comme moi, vous avez un problème de surconsommation...
il y a une plus grosse box.
Ben oui, il y avait, j'ai déjà la big box.
Il y avait
box.
Déjà la big box, la bigger big box.
Ouais, ben ouais. Il nous donne...
C'est si une extension de big box.
Si on achète les cartes, c'est ça, c'est une extension de big box. Dans le fond, ça va entre le couvercle et le fond. Ça allonge la boîte et il y a, dans le fond, un treat plastique pour mettre nos nouvelles cartes.
Ils ont quand même été nice. C'est pas une bigger box qu'il faut que t'achètes séparément. C'est une extension de big box.
Et l'or...
Déjà que la big box est chère, là.
Oui, la big box, c'est pas... de. Remarque que la big box, si tu veux aller dans ça, parce que t'as la small box puis la big box. La small box, c'est juste des tuiles en 3D. La big box, c'est les tuiles en 3D plus le rangement. Puis la big box, c'est genre juste 40$ de plus.
Oh, fait que
tu payes
non.
40$ pour du rangement. C'est 40. Un deal dans le...
Oui, puis, et quand même 180, là, la dernière fois que j'ai regardé.
Puis ben, moi, j'ai commandé mes petites tuiles en 3D de plus pour que ça continue de chuter dans mon... fait que j'ai... Oui...
Donc, c'est ça pour deux de mes extensions que j'attends. Puis l'autre, on a bâché dessus un petit peu tout à l'heure, mais il y a un nouveau Ionzen qui s'en vient, qui va ramener un time gap qui manque, parce que oui, pour ceux qui jouent pas ou qui jouent moins intensément, il y a une histoire intéressante entre les différentes boxes. Il y a des liaisons entre les boss et les minions. Des fois, il y a des affaires qui reviennent, des mages qui changent. Il y a beaucoup, beaucoup de lore dans ce monde-là. Si tu analyses le tout, là, il y a en masse pour faire un monde de roleplay. Puis, il y avait un gros time gap entre la dernière box qui ont sorti puis la première, parce que la dernière, c'était Past and Future, donc très, très loin dans le passé puis très loin dans le futur. Puis, on avait un qu'est-ce qui est arrivé entre le passé et la première boîte?
Puis là, la question va être répondue.
Un bout de question, parce que ce qui se passe, le gap était trop grand pour être répondu en une seule
faut
boîte.
Faut se laisser de l'espace pour faire
ben plein d'argent. Oui, mais c'est des nouveaux boss, des nouveaux mages, c'est plus de rejouabilité, on dira pas non. Fait que moi, j'ai bien hâte.
Hugo, à quoi t'as hâte?
Personnellement, ben, on parle de campagne, on parle d'histoire, je fais, en fait, on parle de la réalisation que j'ai fait que j'aime
le narratif.
Puis j'ai pas vraiment joué à des jeux de mode campagne. Fait que vraiment, mon objectif, moi, cet été, c'est de m'embarquer dans des jeux comme ça, Sleeping Gods, potentiellement Gloomhaven ou Frosthaven, des jeux un peu plus longs, plus narratifs.
Il va falloir qu'on se fasse une game of Elder Scrolls, c'est sûr.
Absolument, genre, tous ces types de jeux-là. Dans ce que je joue et qui continue, ben, c'est Arkham Horror de Card Game. Qui a récemment, le mois passé, sorti une nouvelle expansion.
Une énième expansion.
Fantasy Flight qui veut plus d'argent.
Ouais.
Mais c'est des...
Attends, ça continue,
c'est des modes de campagne. C'est au même titre que Aeon's End, que c'est des nouvelles aventures, des nouveaux boss, des nouveaux défis à relever. C'est une énième campagne, mais qui est toujours très plaisante à jouer. Et par la suite, découvrir toutes sortes de... nouveau mode campagne.
Ben, moi, pour faire un lien avec ma grosse déception, c'est que j'ai vraiment hâte de jouer à Gloomhaven 2e édition avec les factions.
Ça contribue les probablement classes. À ta déception.
C'est certain que je suis pas pissed off de même pour rien. Puis ben, j'avais dit à mes deux amis, Nathan et Hugo, que je la partais avec eux autres, la campagne. Fait que,
on a hâte aussi qu'il arrive, je te dirais.
C'est chaud, on était un petit peu excités, là. Fait que oui, c'est ça, disons que la déception de ne pas l'avoir cet été, c'était petite douche d'eau froide sur mon enthousiasme. Moi, je continue mes parties de Gloomhaven normal et de Frosthaven. J'ai quasiment le goût. Hugo, tu me dis que tu veux partir une game de Frost. Je vais coter un tiers à la boîte avec toi pour qu'on en parte une autre sur le side.
Mais j'aime
tellement ce jeu-là.
C'est dans mes plantes d'acheter Frosthaven éventuellement. Donc là, c'est sûr, il faut que je me fasse un peu d'argent cet été parce que, bien, à ne pas travailler pendant qu'on est aux études, mais... le compte diminue, je te dirais, relativement rapidement pendant que tu es à l'école. Mais non, ça, c'est dans mes plans de lâcher. Là, je veux faire la campagne au complet. Puis...
Est vraiment, vraiment le fun. Sérieusement, si vous aimez les jeux narratifs d'aventure, puis que vous êtes organisé, vous avez un groupe régulier, parce que faites pas ça avec un groupe qui est pas régulier, là, ça marchera pas, vous allez juste avoir des déceptions. Mais c'est un jeu que je trouve extraordinaire. Il y a du monde qui l'aime vraiment moins, mais je pense que des goûts, ça se discute pas. T'sais. On peut critiquer, on peut dire qu'est-ce qu'on aime pas dans quelque chose, sans
on peut quand même admettre que c'est un jeu de qualité, c'est même ça. Si on l'aime pas.
C'est ça, comme moi, Aeon Zen, je l'aime moins, j'ai des petits enjeux, mais c'est clairement un jeu de qualité, c'est clairement un succès.
De base est vraiment fun.
Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là. Puis, ben, ce que j'attends vraiment de Gloomhaven 2.0, c'est le rebalancement, parce qu'il y a des classes qui sont brisées dans ce jeu-là, autant qu'ils sont brisées trop fortes, puis autant qu'ils sont brisées pas assez fortes. J'attends vraiment ça beaucoup, puis tout l'aspect aussi le petit niveau qui va relever le jeu, là, avec les factions qu'on n'a pas vraiment dans le premier jeu. Puis les miniatures, quand ils vont finir par sortir, un jour, dans 3 ans.
Parlant du premier jeu, t'es-tu rendu à ta deuxième campagne? Vous avez bientôt fini. Là?
On est, je te dirais, la bonne moitié des scénarios possibles de fait.
Parce que ça fait plus qu'un an que ça roule, cette affaire?
Oh oui, ça fait un an et demi que ça roule facilement.
Donc, la rentabilité...
En vrai dire, ça va faire 2 ans au mois d'octobre. On joue 2 semaines, puis des fois, on manque. Fait que, tu sais, je vous dirais que on a peut-être 45 parties de fête au total. Vraiment le fun. Le groupe est le fun aussi. Là, on accroche sur... pendant un bout de temps, on avait juste un tank puis trois lavettes. Fait que c'était dur. C'était dur d'avancer. Puis on s'entend, c'est frustrant de voir un scénario puis de dire, ça, si on va là, on va se faire ouvrir. Ouais. Fait que là, on vient de régler ce problème-là. Dans le fond, on a sorti un personnage du groupe qui était une lavette, qui n'était pas très efficace. Puis d'admission même du joueur que c'était une erreur qu'il avait choisi cette classe-là. Ben, il voulait essayer quelque chose, c'est bon, on y a essayé, puis on a eu du fun avec, là. Puis on a réussi pas mal de scénarios. Mais
à un moment donné, la classe n'était plus suffisante pour continuer d'avancer.
C'est un cas de premier round, tu peux te faire wiper ton groupe. Tellement c'est des lavettes.
Ah, ok, ouais.
T'sais, c'est comme t'as genre 8 points de vie, 8 points de vie, 8 points de vie. Moi, j'en ai 24. Fait que moi, j'ai autant de points de vie que le restant du groupe. Je suis le tank, mais si je suis pas capable d'attirer toutes les attaques sur moi, puis que je suis pas capable de toutes les mitiger, ben eux autres, ils perdent des points de vie. Puis quand ils ont plus de points de vie, ils perdent des cartes. Puis quand ils perdent des cartes, ben ils perdent des tours dans le futur.
Puis soudainement, ils sont plus aussi efficaces en DPS qu'ils devraient l'être.
Vraiment, vraiment pas. Parce que là, il faut qu'ils gardent leurs bonnes cartes pour pas les brûler. Puis oh boy. Fait que ça complique vite. Fait qu'on avait des scénarios où, OK, celui-là, il faut qu'on parte chacun de notre bord. OK, lui, on va le garder pour quand...
On va avoir un deuxième
c'est
tank.
C'est ça. Celui prochain qu'on fait, c'est on split le groupe en deux. Ça tombe bien, on a 2 tanks, 2 DPS. On va être capable de le faire comme ça.
Mais tu me donnes encore plus le goût de jouer à Gloomhaven, Alpha. Arrête de faire ça. C'est
Mais imagine, toi, tu vas avoir la chance de jouer au jeu raffiné, 2e édition. Puis, ben, vous savez, les boys, il y a une boîte en bas, hein?
Oui, je sais.
Il n'y a personne qui vous empêche de l'essayer, là. Fait que c'est ça. Ben, écoutez...
On approche déjà de la fin de l'émission.
Plus qu'approche, là.
Si les jeux que vous avez entendus, les mécaniques vous ont intéressé, même si on ne fait plus d'émissions de radio, le club reste ouvert tout l'été.
L'été, si vous voulez venir nous voir.
Tous les mercredis.
C'est le meilleur moment de venir apprendre un jeu, à vrai dire, parce que c'est un petit peu plus tranquille l'été. On va se dire, il y a moins d'étudiants à l'université. Donc, vous avez des animateurs qui sont disponibles. Hugo, tu vas être là pas mal tout l'été.
Oui,
moi, je suis là tout l'été. Alex, ça ne va pas nulle part. Nathan, ça va être un petit peu plus difficile.
Ça va dépendre de ma job, mais je vais prioriser de renflouer les caisses avant de venir participer.
Puis, on commence à avoir des membres qui viennent depuis longtemps aussi, qui sont des super bons teachers, là, des bons
motivés
coachs,
à expliquer
là.
Des jeux.
C'est ça. On va faire le tour rapidement de ce qui s'en vient. May the 4th, le 4 mai, party du club. party à thème Star Wars, même si on n'a pas beaucoup de jeux de Star Wars.
Je peux faire un one-shot de Star Wars au pire.
C'est pas le même système.
Non. Effectivement, on a beaucoup de systèmes de Star Wars. On a la journée du personnel qui s'en vient le 29 mai. Je cherche encore deux bénévoles pour nous aider à animer. Sinon, si vous faites partie du membre du personnel, vous n'avez pas choisi votre activité encore.
Venez donc nous voir.
Il y a deux plages de jeux de société. Vous pouvez vous inscrire aux deux, rester les deux heures, puis avoir beaucoup de plaisir avec vos collègues. C'est toujours un grand succès à chaque année.
Sinon, on a tous nos mercredis, parce que même si les sessions d'examen sont en plein cours, puis qu'après ça, ça va être l'été, on continue d'être actifs les mercredis, nous.
C'est ça. Effectivement, on a des plus petites salles ce soir. Mais vous êtes quand même invités à venir nous visiter. Les boys, je veux vous dire un gros merci. Ça a été un grand plaisir de travailler avec vous cette année.
C'est réciproque.
Je salue votre dédication, parce qu'on fait tout ça bénévole. Hein?
Oui.
Puis l'animateur n'est pas toujours facile. Il pousse pas mal. Fait que je le sais, mais tu sais...
Ça fait du contenu.
Ça fait du contenu, effectivement.
Hâte de recommencer l'an prochain, personnellement.
Ben, en tant qu'ancien à deux, là, c'est vraiment plus fun d'être à quatre.
Sérieusement, c'est moins difficile sur l'animateur et le
parce que non seulement on a deux fois moins de contenu à faire, mais on a aussi plus de réactions et d'énergie en groupe.
Effectivement. Puis, ben,
merci d'être là.
On n'est jamais tout...
Fait que, puis merci aux auditeurs aussi. Bon été, merci de nous avoir écoutés.
Puis, ben, c'est ça, à nos auditeurs fidèles, j'apprends
pas
que vous êtes beaucoup
si vous êtes
plus nombreux que
examens.
Je pensais. Fait que, tant mieux. Il est midi, faut qu'on se sauve. Hey, salut tout le monde, bon été.
Bon
salut.
Été.
Bye.